Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église pour une émission que j'ai souhaité consacrer au prix décerné cette année par la chaire Jean Rodin de l'Institut catholique de Toulouse. Il distingue des étudiants engagés dans un projet de solidarité avec un objectif social. Pour vous présenter les projets qui ont retenu l'attention du jury cette année, j'ai le plaisir de recevoir Aude Bernard, docteur en droit et maître de conférence à la Faculté libre de droit de l'ICT, titulaire de la chaire Jean Rodin. Bonjour et bienvenue Aude Bernard, merci d'avoir répondu à mon invitation.
Bonjour Éric, merci à vous pour cette proposition.
Les prix 2025 de la chaire Jean Rodin ont été remis aux lauréats en avril dernier à l'ICT. Ce sont les projets de Fanny Pouillet et Marie Casse qui ont été distingués. Nous allons avoir la première au téléphone tout à l'heure pour qu'elle nous présente le sien. Au préalable, je voudrais que vous rappeliez à nos auditeurs ce que sont la raison d'être et les activités de la chaire Jean Rodin. Ça permettra de comprendre le sens que vous donnez au prix que vous décernez.
Tout à fait. Alors, je vous remercie pour cette question, Éric. La chaire Jean Rodin de Toulouse est une des cinq chaires qui est attachée à la fondation éponyme, la fondation Rodin, créée à l'issue du décès de Jean Rodin, lequel a créé le Secours catholique. Le Secours catholique, dans ses débuts, et qui a impulsé cette idée que l'engagement et la charité devaient être quelque chose de terrain et qu'il fallait s'engager le plus possible pour autrui et pour le bien commun. Et donc, c'est la raison d'être de notre chaire Jean Rodin à Toulouse, comme les autres chaires naturellement. Et nous nous efforçons le plus possible de travailler sur des sujets qui mettent en pratique la pensée de Jean Rodin, à savoir une charité qui va venir éveiller les cœurs et qui va venir donner un sens à la vie de chacun.
Ce que vous faites aussi, c'est que vous développez des projets de recherche dans le domaine de l'éthique sociale, projets s'appuyant sur une démarche qui elle-même repose sur les grands principes de l'enseignement social de l'Église.
Tout à fait. La doctrine sociale de l'Église est au cœur même, évidemment, de notre réflexion. Et nous avons différents sujets avec des grands thèmes que nous traitons. Par exemple, concernant le grand âge, cela fait 4 ans maintenant que nous travaillons sur cette question, sur la question du management au regard du grand âge dans les structures, la question de la spiritualité du grand âge qui a été évoquée en mars dernier. Nous réalisons un colloque qui va arriver donc en décembre, le 4 décembre, en partenariat avec l'Université Toulouse Capitole et plus précisément Madame Lucie Sourza sur la question de la fin de vie et justement des travaux qui sont actuellement en cours. Donc nous avons par exemple le grand âge qui est quelque chose très important pour la chaire puisque nous nous plaçons dans cette dynamique où on ne peut pas concevoir une fin de vie qui s'arrêterait brutalement. Pour nous, il faut réfléchir la façon de finir sa vie. Et réfléchir la façon de finir sa vie, ça veut dire se concentrer sur la personne en fin de vie et sur les acteurs qui gravitent autour d'elle et savoir comment, dans l'esprit de la doctrine sociale de l'Église, on peut faire de cette fin de vie quelque chose qui soit apaisé, apaisant pour les proches, pour les aidants, et qui puisse tout simplement être en adéquation avec la dignité de la personne humaine.
J'ai l'impression que de manière générale, vous menez des réflexions et même des actions sur tout ce qui est effet négatif des vulnérabilités et des fragilités.
Oui, c'est vrai que là, je me suis concentrée sur le grand âge, mais nous travaillons aussi sur d'autres formes de vulnérabilité que nous abordons sous le thème, pareil, pour parler d'un gros thème que nous travaillons beaucoup, c'est la question de la gouvernance. La gouvernance, ça fait à peu près 5 ans que la chaire s'est plongée dessus sur la question de la gouvernance et des vulnérabilités, quelles qu'elles soient. Ça a donné lieu à la production d'un ouvrage dirigé par Marie-Christine Monnoyer et par Nathalie Tesser, qui est maître de conférence en psychologie à l'ICT. Nous avons également lancé un projet GOS, qui est gouvernance des organisations catholiques d'enseignement. C'est un très gros travail de terrain sur la façon de gouverner un public fragile, puisque ça va être un public d'enfants, de jeunes enfants, donc de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et il y a actuellement 19 terrains de recherche-action. Nous avons même bénéficié d'une bourse du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour pouvoir réaliser des recherches en ce sens dans des pays de l'Union européenne. Donc voilà, la question de la gouvernance et de la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est au cœur de notre action. Je préciserai aussi que nous avons eu l'honneur d'être choisis par l'ATHEM, l'Association des théologiens et théologiennes pour l'étude de la morale, pour réaliser leur congrès annuel, lequel s'est tenu donc à l'ICT la semaine dernière, et le thème qui était abordé était la gouvernance avec les vulnérabilités dans les institutions ecclésiales, dans le domaine sanitaire et social, dans le domaine éducatif évidemment avec les travaux du GOSS, et d'une manière générale, les vulnérabilités issues de notre patrimoine commun, l'environnement ou l'humanité.
Une question aussi qu'on peut se poser, c'est qui sont les membres de la chaire Jean Rodin? Vous êtes combien? On n'a pas forcément des noms, mais en tout cas le type de profil qu'on peut y trouver, le type de compétences.
Alors je pense que les membres de la chaire Rodin ne verront pas d'objection à ce que je les présente. Nous sommes une petite dizaine. Nous travaillons ensemble, je l'espère, dans la joie et la bonne humeur, mais c'est l'impression que j'en ai. Nous avons évidemment le professeur Luc Thomasson, qui est un frère dominicain et qui est professeur de théologie morale et éthique à l'Université de Fribourg, ancien recteur de l'ICT. Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités en sciences de gestion, professeure émérite, ancienne titulaire de la chaire pendant 18 ans. Jean-Louis Gallo, frère franciscain, et c'est lui qui a créé le GAF, le groupe Amitié Fraternité, qui vient en aide aux personnes de la rue. Nous avons également le frère Tanguy-Marie Pouliquin, qui est un frère de la communauté des Béatitudes et qui est professeur de théologie morale à l'ICT, qui est membre de la chaire depuis de longues années. Le frère Gilles Danroc, qui est frère dominicain, spécialisé en philosophie et en théologie. Et surtout, Gilles Danroc est quelqu'un de terrain, qui est au contact d'Haïti depuis plus d'une vingtaine d'années et qui s'y rend très régulièrement pendant de longues périodes, donc qui aborde cette fameuse charité de terrain depuis longtemps. Nous comptons également M. Arnaud Levanne, qui est maître de conférence en sciences de gestion à la faculté de lettres de l'ICT et qui est donc responsable de la licence LEA. Jean-Yves Perroin, qui est un juriste retraité, docteur en droit, diplômé de l'IAE, qui intervient beaucoup sur l'aspect art et littérature, la question de l'altérité. Nous comptons aussi Françoise Faugeras, qui est artiste peintre, titulaire d'un baccalauréat canonique à l'ICT. D'ailleurs, au cours de son baccalauréat canonique, elle a rencontré Jean-Marie Fehrenbach. Jean-Marie Fehrenbach était quelqu'un d'absolument exceptionnel, polytechnicien, licencié en théologie, un certificat d'études bibliques en langue ancienne. Alors Jean-Marie nous a quittés fin juillet. C'était un moment un petit peu difficile pour nous, puisque nous étions très attachés à Jean-Marie. Mais l'œuvre de Jean-Marie se poursuit, puisqu'il avait réalisé une conférence sur l'engagement éthique des prophètes. Et cette conférence qu'il a retravaillée fera l'objet d'un cahier évangile numéro spécial qui sortira en septembre prochain. Donc une pensée toute particulière pour Jean-Marie Fehrenbach.
D'autant plus qu'il a été très longtemps président des Amis de Radio Présence et c'était une figure de notre radio à laquelle nous étions nous aussi très attachés. On lui rend hommage en passant.
Juste, j'ai oublié, je n'ai pas oublié, mais j'ai fait le lien entre Françoise et Jean-Marie parce qu'ils travaillaient tous les deux ensemble de façon très étroite. Nous comptons également sœur Marie-Paul, qui est religieuse en mission dans un institut religieux. Nathalie Genest, qui est maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Bordeaux, et l'abbé Xavier Nandoul, qui est prêtre au Sénégal, directeur de séminaire, docteur en théologie de l'ICT, et qui interviendra lundi 8 septembre sur la conception africaine de la personne humaine.
On en arrive au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le prix de la chaire, Jean Rodin. Pourquoi vous l'avez créé? Dans quel but? Avec quels objectifs? Alors, il existe depuis 2017-2018, hein.
Oui, oui. Le prix a été créé sous la direction de Marie-Christine Monnoyer avant le Covid pour saluer et récompenser l'engagement des étudiants qui donnaient de leur temps de façon bénévole pour promouvoir la charité de terrain. Donc encore une fois, c'est un prix qui s'inscrit vraiment directement dans la pensée de Jean Rodin, l'idée d'avoir une charité concrète, voilà, dans la vie de tous les jours. Alors malheureusement, le Covid, avec l'effet de confinement, a mis un terme à ce prix puisque les étudiants n'ont pas pu avoir accès aux engagements et aux associations dans lesquelles ils étaient. Et nous avons remis au goût du jour ce prix à la rentrée 2023-2024 avec des lauréats qui ont été récompensés en 2024 et les deux finalistes que vous avez cités tout à l'heure, Fanny Pouillet, Marie Caze, cette année en 2025. Et je remercie tous les participants à ce prix.
Donc c'est un prix... concours même, hein, pour les étudiants engagés dans un projet de solidarité qui est né aussi de la rencontre entre la chaire, en tout cas les membres de la chaire, et le service engagement solidaire de l'ICT.
Oui. Le service engagement solidaire de l'ICT réalise des missions qui sont absolument incroyables puisqu'ils viennent supporter au sens premier du terme, c'est-à-dire aider le plus possible nos étudiants à valoriser leur engagement solidaire et à s'impliquer autant qu'ils le peuvent sans mettre en péril leurs études, bien évidemment, mais en conciliant tout cela. Et nous avons souhaité travailler en partenariat avec l'engagement de la vie solidaire, la vie étudiante solidaire, et valoriser cet engagement avec ce prix qui récompense chaque année les lauréats le jour de la journée de l'ICT, c'est-à-dire qu'il y a un moment particulier au cours de cette journée qui est prévu pour la remise des prix avec voilà, une modeste contribution, mais une contribution quand même pour l'association que les étudiants représentent.
Alors l'objectif de ce prix, entre autres, c'est de favoriser aussi les liens et les interactions entre les étudiants et les chercheurs dans le domaine du social.
Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de permettre aux étudiants d'avoir plus de visibilité et ensuite, en faisant connaître leur projet ou leur investissement ou l'association dans laquelle ils sont, de pouvoir les mettre en relation avec des acteurs qui peuvent également leur apporter quelque chose de plus. Voilà, donc il y a bien sûr l'aspect financier, mais il y a également, si je puis dire, l'aspect un peu réseau pour permettre à l'association ou au projet d'avoir davantage de visibilité.
Et de se pérenniser dans le temps.
Tout à
parce
fait.
Que c'est aussi le but, bien sûr.
Ah oui, l'idée, c'est de le pérenniser, d'augmenter la récompense. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser le plus possible ce prix.
Qui peut être candidat à ce prix? Quels sont les critères de sélection pour participer?
À l'heure actuelle, les critères sont assez simples. Il faut être inscrit dans une association, être bénévole dans l'association ou monter un projet, mais avec un projet qui va aboutir, pas seulement une idée, un projet
qui est déjà lancé.
Qui est déjà lancé, exactement, qui soit en lien avec la solidarité, le bien commun et la charité, et que l'étudiant puisse vraiment démontrer son implication de terrain dans cette association, avec ce que ça lui a apporté et ce que lui, il a apporté à l'association. Voilà, donc les critères sont, mine de rien, assez simples, mais ils doivent démontrer un engagement de qualité avec l'association qu'ils représentent.
Alors vous insistez aussi sur le côté innovateur du projet concerné, et puis il faut qu'il y ait une cohérence de ce projet avec les principes de la pensée sociale de l'Église, critères importants.
Critères importants, mais critères qui peuvent être appréhendés personnellement par tout un chacun. C'est-à-dire que certains vont se concentrer peut-être davantage sur l'aspect de la solidarité qui fait partie d'un des grands principes de la doctrine sociale de l'Église, tandis que d'autres vont se concentrer plutôt sur le bien commun ou sur la dignité humaine. J'ai envie de dire, il ne faut pas cocher forcément toutes les cases des grands principes de la DSE. La concentration sur un principe est tout à fait possible et il faut expliquer pourquoi cet axe-là de la doctrine sociale de l'Église tient autant à cœur à l'étudiant et comment en pratique il la met en œuvre.
Une précision, c'est que des étudiants qui ont réalisé leur projet jusqu'à 3 ans auparavant peuvent candidater. Ce n'est pas forcément un projet très récent.
Non. On a souhaité l'ouvrir le plus possible, y compris à nos alumni, donc à des étudiants qui auraient, dans le cadre de leurs études à l'ICT, lancé un projet ou se seraient investis dans une association, qui ont développé leur intérêt pour cette association ou leur projet et qui, jusqu'à 3 ans après leur passage à l'ICT, souhaitent candidater à ce prix.
De quel membre est constitué le jury qui décerne le prix?
Alors cette année, le jury était constitué par Jean-Yves Perroin, Marie-Christine Mounoyer et notre ami Jean-Marie Ferenbach.
Donc il y aura un nouvel arrivant, si on peut dire, dans le jury pour l'année prochaine?
Tout à fait. Alors j'ai le plaisir d'annoncer à la radio justement que Mélanie de Souza Barbero est notre nouvelle recrue de la chaire Jean Rodin. Elle va intégrer la chaire officiellement, si je puis dire, dans quelques jours. Et elle est juriste en droit de la santé, très intéressée par les questions d'éthique, de vulnérabilité et de la doctrine sociale de l'Église. Et j'aimerais beaucoup qu'elle intègre en effet le prix la chaire Jean Rodin. Enfin, le jury du prix de la chaire.
Oui, alors le prix remis au lauréat aujourd'hui, c'est une somme d'argent,
oui.
Pour l'instant modeste.
Qui est modeste,
mais
oui.
Je crois que vous souhaiteriez, on peut lancer un appel d'ailleurs
oui.
Au passage, vous souhaiteriez peut-être augmenter ce prix, cette somme remis aux étudiants.
Oui, l'idée c'est de l'augmenter. Maintenant, nous avons beaucoup d'activités organisées et prévues pour l'année qui arrive et puis sur un plan triennal. Et nous avons des fonds qui sont modestes. l'idée, c'est de les augmenter, mais c'est vrai que je profite un petit peu de ce passage et je vous remercie beaucoup, Eric, pour cette main tendue, pour lancer un appel. Si certains souhaitent, dans une moindre mesure, participer au financement de ce prix, ce sera avec plaisir, puisque pour l'instant, il est de l'ordre de 300 euros pour le premier lauréat et de 200 euros pour le second lauréat. Mais à terme, nous aimerions donner 1000 euros pour le premier candidat et 800 euros peut-être pour le second. Donc, si des entreprises m'entendent et souhaitent s'investir dans ce prix Rodin, ce serait avec plaisir et également faire partie du jury pour entendre tous les projets de nos étudiants qui sont chaque année absolument incroyables et formidables.
Et puis, il y a autre chose quand même qui est, je pense, important pour les lauréats, c'est que ça leur ouvre aussi un réseau, un carnet d'adresses au passage.
Tout à fait, voilà, c'est l'idée qui va avec ce prix, c'est le plus possible de valoriser l'action de nos candidats dans notre entourage professionnel, personnel, et après ben, vous savez ce que ça peut faire, hein. Il suffit d'en parler un petit peu et
hop, ça fait boule de neige.
Ça fait boule de neige, voilà, et ça valorise l'association.
Combien de dossiers vous avez reçus cette année et combien ont été retenus dans la sélection finale avant le choix des lauréats ?
Alors cette année, nous avons eu un problème, un couac un petit peu dans la communication. Donc nous n'avons reçu que 5 dossiers, là où l'an dernier, nous en avions reçu 9. Cette année, nous allons travailler différemment dans la communication auprès des étudiants avec la vie étudiante. On a déjà commencé à en discuter parce que l'idée est vraiment de faire connaître ce prix. Et malheureusement, l'an dernier, je pense que tous les étudiants n'ont pas eu l'information. C'est quelque chose que je regrette, mais sur lequel nous allons travailler pour nous améliorer pour cette année.
Donc il y a 2 lauréats, un premier et un second prix, puis vous remettez aussi un prix coup de cœur.
Oui, le prix coup de cœur, c'est le prix qui malheureusement n'a pas été retenu à l'heure actuelle, mais qui le sera certainement pour l'an prochain, si le projet est peut-être plus développé.
Donc on va donner la parole tout à l'heure à Fanny Pouillet qui a reçu le premier prix, mais bon déjà vous pouvez peut-être nous dire un mot sur le projet en question et l'association qu'il y a derrière et l'objet de cette association.
Je ne voudrais pas empiéter sur les propos de Fanny Pouillet qui nous présentera l'association certainement bien mieux que moi, mais je peux dire à nos auditeurs que les membres du jury ont été particulièrement séduits par cette association. C'est l'association, vous le rappeliez, il y a de la joie qui va faire des maraudes, mais des maraudes musicales, puisque l'idée développée par Fanny, notamment quand elle était auditionnée par le jury du prix, c'est d'apporter autre chose en complément des biens matériels que l'on peut donner dans le cadre d'une maraude et d'apporter de la musique, de la joie, de la bonne humeur pour éveiller un petit peu l'esprit, la conscience des personnes qui sont en difficulté dans la rue.
Voilà, et Fanny Pouillet va nous en dire plus tout à l'heure. Le second prix, c'est donc Marie Caze qui a été récompensée pour son engagement dans l'association À Bras Ouverts. Et là, ça concerne des jeunes en situation de handicap.
Tout à fait. L'association À Bras Ouverts, en acronyme ABO, l'association ABO, a été créée à la fin des années 80. L'idée que nous a présentée Marie, c'est que des jeunes qui sont porteurs d'handicap, qui sont en situation de handicap, puissent passer un week-end sans leurs parents, avec des aidants, des accompagnants qui sont bénévoles et qui vont leur changer les idées, leur permettre de se retrouver dans un autre cadre que le cadre qu'ils connaissent au quotidien. Et cela a plusieurs effets qui sont extrêmement bénéfiques pour chacun. Pour les parents, ça permet d'avoir un jour ou deux où ils vont pouvoir un petit peu souffler. Pour le jeune en situation de handicap, cela lui permet d'être avec une communauté qui a l'envie de partager de belles choses et qui s'investit sur le temps d'un week-end. Et pour les accompagnants bénévoles et les aidants bénévoles, c'est un moment, nous disait Marie, de grand partage et de grande humanité, puisque, je la cite, on en ressort toujours changé. C'est ce qu'elle nous avait dit lors de la remise du prix, lorsque je lui avais remis le prix. Elle nous a dit, dans tous les cas, on en ressort changé. C'est une expérience qui est absolument incroyable et qui apprend beaucoup par rapport aux autres.
Et puis un petit mot aussi sur le prix coup de cœur, donc c'est Léa Lafaille qui a été distinguée pour Chat Mania. Alors ça, c'est une association qui lutte contre l'abandon des chats. Là, c'est la détresse animale qui est concernée.
Oui, c'est la détresse animale qui est concernée. Et donc le projet de Léa Lafaille avait intéressé également le jury, mais l'investissement était peut-être un petit peu à ses débuts. Et c'est pour ça qu'elle a été récompensée du prix coup de cœur, mais que malheureusement, et je l'invite à représenter sa candidature, elle n'a pas été dans les deux premières lauréates lauréate. Voilà, l'idée, c'est de prendre en charge les chats qui sont abandonnés sur les soins vétérinaires, donc l'aspect médical, mais également sur de l'attention et du bien-être réalisé auprès de ces chats. Et Léa Lafaille me confiait, alors je ne sais pas si elle l'a fait ou pas, mais elle me confiait qu'elle souhaitait créer sa propre association sur justement l'entraide et le bien-être animal pour les animaux abandonnés.
Le but aussi, c'est de permettre l'adoption des chats qu'ils recueillent.
Tout à fait.
Nous allons faire une pause dans cette émission avant d'échanger avec Fanny Pouillet, l'une des deux lauréates du prix 2025. Je vous propose de faire cette pause en écoutant une chanson de circonstance.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris-boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette pliboutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles. Il y a de la joie, partout, il y a de la joie.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous voici de retour à l'antenne avec Aude Bernard, docteur en droit et maître de conférence à la Faculté libre de droit de l'Institut catholique de Toulouse, titulaire de la chaire Jean Rodin. Cette émission est dédiée au prix que décerne chaque année la chaire à des étudiants qui ont créé ou portent un projet de solidarité dans le domaine social. Les lauréats des premiers et seconds prix sont Fanny Pouillet pour Y'a de la joie, une association qui organise des maraudes chantantes auprès des personnes qui vivent dehors, et Marie Casse pour son engagement avec À bras ouverts, qui propose des week-ends de répit à des jeunes en situation de handicap. Nous avons Fanny Pouillet au téléphone et elle va pouvoir nous présenter son association. Bonjour Fanny, racontez-nous un peu la genèse du projet Y'a de la joie. Depuis quand existe-t-il et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dedans et peut-être même à participer à sa création?
Merci beaucoup de me permettre de parler de Y'a de la joie. Alors Y'a de la joie a commencé en 2019. En fait, c'est grâce à deux lycéennes qu'Y'a de la joie existe, grâce à Clémence et Raphaël. En fait, suite à un témoignage d'amis qui avaient créé une association, elles se sont demandé comment est-ce qu'elles pouvaient mettre leur talent au service des autres. Et comme elles étaient toutes les deux passionnées par la musique et comme la musique les rendait vraiment joyeuses, elles ont décidé de monter une chorale pour les personnes et avec les personnes en situation de précarité. Sauf qu'on est en 2019 et en fait, le Covid arrive et le projet est abandonné, ou pas abandonné, mais il prend une autre forme, ce qui a permis de mûrir le projet vraiment de l'association Y'a de la joie et en fait de le développer sous forme de maraude. Donc moi, j'ai Je suis entrée dans Il y a de la joie que seulement l'année dernière, grâce à un ami qui m'en a parlé, qui m'a proposé d'y aller. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce projet. Ça paraît bizarre d'aller auprès des plus démunis et finalement de leur rien donner. Mais en fait, on se rend pas compte que de la joie, c'est vraiment quelque chose, quoi. Et donc voilà, je suis devenue responsable de recrutement d'Il y a de la joie à Toulouse.
Donc vous êtes responsable du recrutement et vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ?
Alors à Toulouse, pour l'instant, on est entre 15 et 20 bénévoles. Mais après, en fait, Il y a de la joie à 14 antennes dans les grandes villes de France, une antenne en Belgique aussi, il me semble. Et donc voilà, on recrute et il y a pas mal de mouvements entre les étudiants qui arrivent en stage à Toulouse, ceux qui partent, etc. Donc on n'est jamais 20 vraiment à partir en semaine pour les maraudes. Mais voilà, en tout cas, il y a toujours quelqu'un chaque semaine.
Donc il y a beaucoup de musiciens, je suppose. Concrètement, ça se passe comment ? Vous vous baladez, je sais pas, avec des guitares, des instruments qui peuvent être transportés et vous chantez dans des lieux bien précis à chaque fois ? Il y a des circuits ?
Oui, on est vraiment un groupe qui déambule dans les quartiers et en fonction du nombre qu'on est, on va diviser les groupes. Donc oui, on a nos instruments, moi j'ai un harmonica, mais on a aussi pas mal de guitares. Et en fait, notre plus gros support, ça va dépendre si on a beaucoup de musiciens ou pas, ou des villes, tout ça. Et en fait, on va avoir une enceinte. Et très souvent, on va arriver vers les personnes et leur demander si elles vont bien, voilà, et leur proposer de mettre peut-être une musique qu'elles aiment. En général, dans les maraudes, le mouvement va du bénévole à la personne qu'on rencontre. Et finalement, là, c'est elles qui nous font découvrir quelque chose, une musique qu'elles aiment. Et en fait, elles sont tellement heureuses de ça.
Oui, donc en fait, vous ne proposez pas un répertoire figé. Vous faites un peu le jukebox, si je puis dire.
Oui, c'est ça. Après, on a quand même des carnets de chants et on a un peu des classiques français, enfin des musiques connues. Mais après, sinon, effectivement, en fonction des personnes qu'on rencontre, si c'est de nouvelles personnes, si ce sont des habitués, il y a des habitués qui prévoient pendant la semaine toutes les chansons qu'elles aimeraient écouter pour la semaine suivante, pour le prochain maraude, quoi.
Vous intervenez toujours un peu dans les mêmes quartiers, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes circuits ou vous bougez beaucoup ?
En fait, ça dépend du nombre de groupes qu'on peut faire. Mais en général, donc à Toulouse, on reste vraiment dans le centre-ville. On va aller du côté de la gare, on va aller du côté des Carmes, Saint-Sernin, parfois aussi Saint-Cyprien. Mais voilà.
Vous êtes toujours bien accueillis par les personnes vers lesquelles vous allez ?
Alors, ça dépend des fois, mais quand c'est une personne qu'on ne connaît pas, on n'arrive pas directement fanfaronnant parce que ça fait peur. En plus de ça, parfois on est nombreux, on porte des t-shirts jaunes, on a des instruments, donc ça peut faire peur. Et en fait, une personne qu'on ne connaît pas, on arrive en douceur plutôt. Si une personne est assise, ben on va s'asseoir aussi. Et parfois, il y a des personnes qui nous disent « non, j'ai pas envie d'écouter de la musique » ou « allez-vous-en ». Et donc, ou quand c'est une personne qui paraît vraiment alcoolisée, on ne va pas aller la voir. On a quand même des règles de sécurité à respecter, quoi.
Oui, parce que la première chose à faire, évidemment, c'est d'établir le contact et d'établir une relation apaisée.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des associations qui œuvrent auprès des SDF ?
Alors, à Toulouse, nos horaires de maraude, c'est le mercredi soir, donc on commence à 19h45. Et en fait, on est en même temps que l'association Saint-Vincent-de-Paul. Et en fait, on se rend compte que, donc on n'a pas travaillé ensemble pour l'instant, mais on se rend compte qu'on est vraiment complémentaires. Parce que comme nos horaires sont les mêmes, on va voir parfois les mêmes personnes. Donc eux apportent vraiment de la nourriture, voilà. Et nous, on apporte de la joie derrière. Donc voilà. Après, dans d'autres villes, on a été associé avec d'autres associations, oui, comme Fratello, le théâtre du Poulailler, ou le café de rue du Secours Populaire. Enfin voilà, ça dépend des antennes en fait.
Donc les maraudes, vous concernant à Toulouse, c'est le mercredi, hein, c'est ça, c'est une fois par semaine,
oui,
le mercredi, de quelle heure à quelle heure ?
Donc c'est de 19h45 jusqu'à environ 22h. Et en fait, on est à l'église Saint-Pierre, donc c'est à côté de la place Saint-Pierre, voilà.
Est-ce que vous recherchez encore des bonnes volontés pour vous accompagner dans vos maraudes ou pour aider au fonctionnement de l'association ?
Bien sûr, on cherche tout le temps toujours des nouveaux bénévoles. On est assez en lien avec la paroisse étudiante de Toulouse. Donc en début d'année, on lance des appels pour des bénévoles, pour des donateurs s'il y a, enfin voilà.
J'en reviens au prix que la chaire Jean Rodin de l'Institut catholique de Toulouse vous a décerné. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix, cette récompense ?
Ce prix, il nous permet de financer des projets. Donc au-delà de nous permettre d'avoir un support comme des tisanes, du café pour les maraudes classiques, parfois on fait des réunions, des grands week-ends. Donc, par exemple, le week-end prochain, il y a une grande réunion avec tous les responsables des antennes de France pour une cohésion et pour se rendre compte qu'en fait on n'est pas seul à gérer notre petite antenne. Et aussi, donc, ce qu'on voulait faire à Toulouse, c'est faire un grand repas partagé avec les sans-abri, les personnes qu'on rencontre. J'espère que ça va pouvoir se faire cette année et c'est des projets comme ça qui sont mis en place. Il y a aussi un gros projet qui a été fait, c'est un album avec 8 musiques et ces musiques ont été écrites, enregistrées, chantées avec les bénévoles et avec aussi les personnes qu'on a croisées dans la rue. Donc ça, ce sont quand même des gros projets qui demandent des fonds, donc voilà.
Ouais, écoutez, bravo, hein. Moi, je suis vraiment impressionné par votre engagement et aussi par l'originalité de ce projet puis, qui implique d'aller sur le terrain et d'aller au contact. Je pense que c'est aussi ce qui a séduit le jury, Aude Bernard. Hein.
Oui, tout à fait. Alors moi, je ne faisais pas partie du jury, mais ce sont les retours que j'ai eus, c'est-à-dire l'originalité, l'investissement et voilà, cet accompagnement dans la joie, la bonne humeur pour les personnes qui sont dans une très grande précarité.
Oui, et puis beaucoup d'actions, de projets dans le projet lui-même. Alors, Marie-Case, malheureusement, on n'a pas pu la voir avec nous pour qu'elle nous parle de cette initiative à bras ouverts. Vous pouvez peut-être nous en redire quelques mots pour détailler un peu ce que fait à bras ouverts auprès donc, de jeunes en situation de handicap.
Alors, l'association à bras ouverts donc, est une association qui existe depuis la fin des années 80, depuis 86. L'idée, c'est qu'il y a 31 groupes en France entière et que chaque groupe comporte environ 20 à 40, 50 personnes maximum, de façon à pouvoir tous se connaître. Ces groupes, ensuite, vont se réunir pour pouvoir organiser des week-ends, un à deux par mois, donc il y a quand même une régularité assez conséquente, de façon à partir à une heure ou deux de la ville principale où est situé le groupe, dans la campagne, où, voilà, on peut partir, quitter la ville du moins, et passer un week-end dans une maison qui aura été prêtée. Donc cette association fait appel à des personnes qui souhaiteraient prêter leur maison de campagne, leur résidence secondaire le temps d'un week-end, à tout jeune ou bénévole qui serait prêt à prendre le week-end du samedi 9h du matin jusqu'au dimanche 18h, et à toute famille qui souhaiterait laisser son enfant porteur d'un handicap rencontrer d'autres jeunes. L'esprit est très détendu, le départ se fait en petite estafette, nous racontait Marie, avec de la musique, avec des rencontres. Et il faut savoir qu'ils sont organisés sous forme de binôme, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnant et un jeune en situation de handicap, et l'idée est de ne pas dépasser pas plus de 7 binômes durant un week-end pour ne pas être trop nombreux et pour pouvoir se connaître. Donc chacun fait connaissance dans l'estafette. Ensuite, ils font quelques courses, ils arrivent dans la maison de campagne, ils réalisent des petits jeux, des caplas, du Uno, des jeux de cartes. Il y a toujours, nous expliquait Marie, une balade qui est réalisée, une petite balade dans la nature. Ensuite, ils préparent le dîner, la nuit se déroule. Le lendemain matin, une messe est organisée, puisque l'association à bras ouverts est d'origine chrétienne, et donc la messe fait partie du week-end. Un déjeuner, et puis c'est le retour tranquillement dans les familles. Et je crois, enfin, c'est ce que nous expliquait Marie en tout cas, que chacun y trouve beaucoup, beaucoup de bonheur. Elle, c'est quelque chose qui l'a pleinement intéressée, dans le sens où à chaque week-end, elle rentrait en étant complètement différente, en ayant le regard changé, en ayant partagé des sourires, des joies du quotidien avec des personnes qui sont en attente de ce partage. Et elle nous expliquait combien c'était absolument merveilleux. Et je crois que c'est ça qui a séduit les membres du jury, de se dire, mais c'est génial. Voilà, avoir des jeunes qui peuvent prendre le temps d'un week-end pour aider d'autres jeunes porteurs de handicap et qui en ressortent en étant remplis de plein de choses et en ayant les étoiles dans les yeux, c'est superbe.
Et des deux côtés d'ailleurs, hein, aussi bien les personnes dont
Oui.
elle s'occupe que les personnes qui s'en occupent.
Oui, tout à fait, bien sûr. Tout le monde est vraiment reconnaissant de cette initiative. Donc je crois que l'association recrute des accompagnants. Si vous le souhaitez, ils ont un site internet, vous pouvez aller consulter directement les démarches à faire. Et ensuite, vous rencontrez la personne un petit peu responsable du groupe qui va vous expliquer comment devenir accompagnant. Voilà. Et puis ensuite, c'est à vous de voir avec l'association.
Je suppose qu'il va y avoir un prix de la chaire Jourdain aussi en 2026. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà envoyer des dossiers?
Oui. Vous pouvez envoyer des dossiers. Les dossiers, ils sont disponibles sur le site de l'ICT auprès de Marion Maestri-Pierry, qui est en charge du service de la vie étudiante. Sinon, vous pouvez également me contacter à mon adresse mail qui se trouve sur internet, aude.bernard@ict-toulouse.fr. C'est toujours les mêmes critères. Et ça sera toujours même dépôt des dossiers pour une date limite à peu près vers mi-mars. Une audition des dossiers qui seront présélectionnés aura lieu fin mars. Et ensuite, nous remettrons le prix Rodin lors de la journée de l'ICT.
Et puis, avant de conclure cette émission, on va parler de la chaire Jean Rodin en général. Quelle est votre programmation 2025-2026? Qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors, nous avons une programmation qui est très chargée et je m'en réjouis d'avance, hein, et qui est ouverte évidemment à tous. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez participer, venir nous suivre, même en visio, n'hésitez pas. Le 4 décembre, donc, nous avons un colloque dont je parlais tout à l'heure sur la fin de vie, ses enjeux, son évolution, des soins palliatifs notamment. C'est un colloque qui se veut en collaboration avec l'Université Toulouse Capitole, mais il y aura également d'autres acteurs qui seront présents. Il se déroulera à l'Institut catholique de Toulouse et il sera disponible aussi en visio. Nous aurons des universitaires, nous aurons des représentants du monde médical, nous aurons des philosophes pour réfléchir sur la fin de vie et sur ce fameux projet qui est à l'étude. En janvier 2026, la Fondation Rodin va réaliser son congrès bisannuel, puisque c'est une fois tous les 2 ans, sur la question de la sécularisation. Voilà, l'idée, ça va être de réfléchir sur le contexte de la sécularisation et de s'interroger sur l'inspiration évangélique, qui était quand même à la base de nombreuses organisations caritatives et sociales, donc sur cette place de l'Église. Naturellement, au mois de mars, nous aurons une conférence sur la gouvernance. Alors, plus précisément, ce sera une journée d'études qui sera organisée par mon collègue Arnaud Levanne. L'idée, c'est de réfléchir sur l'intelligence artificielle et l'intelligence économique au regard de la gouvernance. Toujours pareil, ce fameux fil rouge de la gouvernance que nous travaillons depuis de nombreuses années au sein de la chaire. Donc ce sera destination des entrepreneurs, mais également des étudiants, certainement en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et peut-être TBS. Donc voilà, j'invite chacun, chacune qui souhaiterait partager cette journée d'études à se rapprocher de Monsieur Arnaud Levanne ou de moi-même. Nous aurons également une conférence sur les sources du droit biblique dans l'Ancien Testament. Et cette conférence, qui aurait dû être réalisée par Jean-Marie Ferenbach, sera assurée par le père Poirier, que je remercie vivement pour sa proposition. Et puis, tout au long aussi de l'année, encore des projets avec le GOS, le projet donc gouvernance des organisations catholiques d'enseignement, puisque l'année va se terminer pour le projet GOS, mais Alter GOS, qui est un autre projet pour lequel nous avons reçu la subvention, va lui se prolonger. Et donc nous ferons des journées séminaires pour faire des points en cours de route en janvier, en mai-juin, avec également des échanges qui seront faits par certaines porteuses du projet dans le cadre de ce projet GOS avec des universités étrangères. Donc j'invite toute personne qui sera intéressée sur la question de la gouvernance des organisations d'enseignement à se rapprocher de nous. Les séminaires peuvent être suivis en visio ou en présentiel sans difficulté. Et je signalerai un projet que la chaire porte en collaboration sous la direction, plus précisément, de l'abbé Cyprien Comte, qui est membre de la TR1 à l'Institut catholique de Toulouse. Et l'abbé Cyprien Comte réalise un colloque qui va être passionnant sur les 800 ans de la mort de Saint François d'Assise, qui aura lieu début juin, mais peut-être que Cyprien viendra vous en parler directement. Et c'est un colloque auquel la chaire s'associe et que nous diffuserons et sur lequel nous communiquerons également, puisque le sujet nous intéresse très vivement. Voilà pour cette année qui s'annonce très riche Et tout ceci sans prendre en compte les éventuelles conférences qui pourraient se rajouter au gré de l'actualité sociale, politique, ecclésiale.
C'est très riche et puis très varié aussi. Et donc, pour revenir au prix de la chaire Girondin, il sera remis en avril comme d'habitude ?
Normalement en avril. Voilà, il faut que je fasse le point avec Marion Maestri-Pierry, mais on serait sur la même périodicité.
Eh bien, nous allons conclure cette émission. Merci beaucoup à vous,
merci
Bernard,
Eric,
d'y avoir participé. Et merci à Fanny Pouillet d'avoir été avec nous tout à l'heure pour nous présenter son projet avec l'association Il y a de la joie. Je précise que vous pouvez consulter la programmation 2025-2026 de la chaire Jean Rodin en vous connectant au site de l'Institut catholique de Toulouse, www.ict-toulouse.fr. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Enzo Basile. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.